Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Un poisson fait la une du magazine des Échos.
Et ce poisson est un objet de désir, car enfin Nicolas, quoi de plus désirable qu'un thon quand il est rouge et quand on est japonais? Et les Échos racontent donc ce diamant des mers dont le sang est chaud et dont une bouchée de chair découpée juste sous la peau du ventre, Kuro Maguro, vous coûtera 38 €. 38 € la bouchée dans un restaurant de Ginza. Le thon rouge que l'on vend aux enchères à Taijuki, le plus grand marché de poissons du monde, 1,5 million d'euros pour une bête de 222 kilos en 2013. Mais le thon rouge qui disparaît et que les Japonais veulent désormais produire dans des fermes aquatiques, c'est un dossier superbe esthétiquement et passionnant comme l'économie quand elle parle de nos étranges passions. Car ce thon rouge, les Japonais ne l'aimaient pas. Ils ne l'ont découvert qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand leurs vainqueurs américains mangeurs de bœuf leur ont transmis le goût des viandes rouges et grasses. Et désormais, les Japonais sacrifient dans leurs fermes expérimentales des sardines et des maquereaux tués par milliers et par millions pour nos sushis. Voilà l'espèce humaine. Dans le magazine du Monde, en vente tout à l'heure, vous lirez un reportage sur la fabrique des bitcoins. Vous savez, la monnaie électronique qui est forgée dans des chaînes informatiques. Oui, mais ces blockchains mobilisent des ordinateurs qui chauffent et qui consomment de l'énergie. La consommation d'électricité du réseau bitcoin serait supérieure à celle de la Nouvelle-Zélande. Son empreinte carbone représente 1 million de vols transatlantiques. Du coup, les chercheurs d'or du Bitcoin vont installer leur machine en Islande, une terre volcanique où l'électricité serait écologique et le climat est vivifiant. Il suffit, lis-je, d'ouvrir les fenêtres pour obtenir le free cooling, le refroidissement gratuit des appareils. C'est dans le magazine du Monde, la planète et le terrain de nos jeux.
Une photo érotique dans le Figaro?
On y voit une femme offerte et agenouillée, le corps nu paré de bimbeloterie indienne. Et son regard nous invite du fond des âges, car cette photo a plus d'un siècle. Margaretha Getroida Zell posait à Paris en 1905. On connaît cette néerlandaise sous le nom de Mata Hari, espionne fusillée pendant la Première Guerre mondiale, mais auparavant une danseuse lascive qui ensorcelait l'Europe guindée des années 1900. On la célèbre à Leeuwarden, aux Pays-Bas, nous dit le Figaro, qui pour l'occasion s'affranchit de sa bonne tenue, comme si le passé lavait l'érotisme. Or non, Nicolas, le désir n'a pas d'âge et l'intelligence qui lui est liée est immortelle. Et un homme disparu en 1984 vient ainsi maintenant nous parler de sexe comme un philosophe, Michel Foucault. Il est dans le magazine des Échos, Michel Foucault, encore les Échos. Dans le nouveau magazine littéraire également, dans Le Monde et dans un très beau hors-série de Philosophie Magazine qui lui est consacré. Foucault pensait notre sexualité comme un parcours idéologique. Il faisait dialoguer les pères de l'Église et les philosophes antiques. Le dernier tome va paraître de son histoire de la sexualité. Ça s'appelle Les aveux de la chair. C'est le dernier grand inédit qui nous arrive de la philosophie du XXe siècle, lit-on dans Philosophie Magazine, mais c'est actuel. Le nouveau magazine littéraire intègre Foucault à la libération que l'on connaît de la parole des femmes. Commentaire posthume de Foucault. Je ne suis pas où vous me guettez, mais ici, d'où je vous regarde en riant. Il est donc aussi dans Le Monde, Michel Foucault, Le Monde qui célèbre le cinquantenaire de son indispensable supplément littéraire en republiant quelques critiques historiques et notamment celle-ci en 1984, déjà sur un tome de l'histoire de la sexualité. Le journaliste se demandait si, à travers les Grecs, Foucault ne parlait pas de nous-mêmes, je cite. Il décrit un monde sans idéologie transcendante, sans loi triomphante, où l'individu pourrait enfin entrer en lui-même, s'investir entièrement dans ses relations aux autres, au plaisir, à la beauté, à l'art. C'était écrit il y a 33 ans. Sommes-nous libres enfin, libres de s'adonner à l'art, libres des idéologies, comme l'espérait Foucault, ou bien sommes-nous pitoyables et esclaves? Il y a de quoi douter ce matin quand dans les journaux on passe de l'intelligence absolue au sordide. On lit dans Libération l'univers de ce quinquagénaire lié à une star de la télé-réalité qui attirait près de lui et parfois dans sa couche des jeunes gens délicats. Il photographiait les cartes d'identité de ses éphèbes pour se prémunir par avance dès contre les accusations de pédophilie. On lit sur le site internet de Vanity Fair la très longue confession de cette femme qui accuse l'islamologue Tariq Ramadan de l'avoir violée dans des conditions atroces. Je vous passe les mots qui sont insoutenables, mais il faut lire Vanity Fair où l'humanité flétrit, éclate à chaque mot. Comment penser cela? Ce n'est pas seulement le sexe qui fait de l'homme un prédateur ou un esclave, mais aussi ses rêves ou son besoin de fuir la misère de son corps. Sauf foot raconte ainsi ces footballeurs professionnels qui, pour un match de plus, un match de trop, éteignent leur corps avec des antidouleurs. Le titre de l'enquête, c'est « Ibuprofène Football Club ». Cela raconte les ravages dans les vestiaires des anti-inflammatoires. Le monde diplomatique lui raconte la grande overdose due aux opiacés qui ravage la classe moyenne aux États-Unis. 65 000 morts par overdose en 2016 dans un pays qui n'a rien vu venir. Le drogué, c'est le fils du voisin qui passe la tondeuse. Et ce n'est même plus l'héroïne, mais des produits de laboratoire. Ainsi, le fentanyl produit en Chine. Mais l'overdose a une origine médicale. C'est en usant et abusant des antidouleurs que l'Amérique a basculé, se soulager et puis se perdre.
Des bébés et des hommes, Claude, pour finir.
Un homme qui s'appelle Nicolas Ranga, 32 ans. Il est dans les pages Essonne du Parisien ce matin. Il s'est senti devenir père le jour où il a perdu un bébé et depuis donne des cours aux nouveaux parents pour les aider à traverser les premières semaines de leur bébé. Il est beau, Nicolas Ranga, dans le Parisien. Ils sont beaux aussi, tous ces pères qui posent avec leur bébé à la une et dans les pages de l'Obs, qui mènent un combat pour le congé paternité. C'est une banalité en Suède, mais une lointaine espérance chez nous. Elles sont belles aussi dans La Croix, ces prostituées venues du Nigeria pour se vendre dans nos pays et qu'une bonne sœur italienne aide à sortir de l'esclavage. L'égalité nous sauvera, Nicolas, peut-être, ou bien les femmes braves ou les hommes aimants.